France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de géographie et des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur un aspect bien spécifique du changement climatique, la santé. Le 22 avril dernier, à l'ONU, ce sont en effet 175 pays qui ont signé l'accord de Paris sur le climat, ce fameux accord arraché à la fin de la COP21. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a parlé de moments historiques. Alors on voudrait profiter de cette occasion pour évoquer un aspect très important du changement climatique, mais dont on pourrait peut-être parler davantage, et plus souvent, en tous les cas, on est heureux de le faire ici, dans Planète Terre. Cet aspect, c'est celui des conséquences du changement climatique sur la santé. L'Organisation mondiale de la santé, qui dépend de l'ONU, a tenu une grande conférence sur ce sujet en juillet 2015, et on espère pouvoir faire un petit peu état maintenant des résultats, ou en tout cas des pistes qui ont été ouvertes par cette grande conférence. L'OCDE aussi a fini par s'emparer du sujet. Et bien sûr, le GIEC lui-même, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, a commencé à s'en préoccuper et en a notamment fait un chapitre remarqué dans son rapport 2015. Vous savez que le GIEC rend un rapport tous les 5 ans. Enfin, pourrait-on dire. Enfin, car pour les chercheurs qui travaillent cette question depuis une quinzaine d'années, les financements auraient pu être plus importants et surtout plus précoces. D'autant que, on le verra, les données manquent pour réagir le plus précisément possible aux conséquences sanitaires majeures qu'aura, car cela, c'est une certitude, le changement climatique. Alors, quel est l'impact du changement climatique sur la santé mondiale? C'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Élément de réponse avec mes deux invités, Jean-François Guégan et Cyril Caminade. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Guégan, vous êtes écologue de la santé, vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez plus précisément au sein de l'unité mixte de recherche MIVEGEC et vous venez de contribuer à un livre très éclairant, très pédagogue et très bien illustré, qui s'appelle « Le changement climatique, quel défi pour le Sud ?» Et vous avez rédigé le chapitre 15 de cet ouvrage, donc chapitre dédié à la santé, ouvrage qui est paru en novembre 2015, donc juste avant la COP21. Cyril Caminade, pour votre part, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Liverpool, au sein de l'École des sciences de l'environnement, plus précisément à l'Institut des maladies infectieuses et de la santé mondiale. Précédemment, vous travailliez au CERFAX de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, ce qui veut dire, pour les familiers de notre paysage scientifique français, que vous étiez, ou que vous êtes encore, vous allez nous le dire, physicien, que vous êtes climatologue, et que, en tout cas, maintenant, vous êtes parti travailler à Liverpool. Peut-être aurez-nous, au passage, l'occasion de nous expliquer pourquoi. Je voudrais vous proposer, messieurs, et à tous les auditeurs, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on écoute rapidement, peut-être pour nous remettre les grands cadres en mémoire, qu'on écoute donc la synthèse brossée par Sylvie Joussaume, climatologue bien connue, notamment pour ses travaux de vulgarisation. Donc la synthèse brossée par Sylvie Joussaume des manifestations et des effets du changement climatique, c'était le 7 décembre 2015.
Tous les éléments qu'on a nous permettent de dire que ce réchauffement est vraiment dû à l'augmentation des gaz à effet de serre par les activités humaines, c'est-à-dire toute notre consommation d'énergie, la démographie, le développement de l'agriculture conduisent à cette augmentation de gaz à effet de serre qui produit ce réchauffement. Le changement climatique est marqué par un grand nombre d'impacts. C'est non seulement effectivement température, précipitation, niveau de la mer, fonte des glaces, mais aussi des risques sur la production agricole avec une diminution, une efficacité moins grande de l'agriculture, en particulier dans les régions tropicales en raison du réchauffement. Également des risques de migration des populations liées aux crises climatiques lorsqu'il y a de grandes inondations ou un déficit en eau ou la montée du niveau de la mer, sachant qu'un grand nombre de régions se retrouvent au niveau de la mer et une grande partie de la population se retrouve dans des régions vulnérables. Le changement climatique affecte l'alimentation, affecte la qualité, la quantité d'eau. Ça va avoir un impact sur la santé. Également, les crises climatiques, une crise d'inondation, une sécheresse, un niveau de la mer qui augmente de façon importante, vont créer des stress psychologiques qu'il faudra également prendre en compte.
Alors, ça va avoir un impact important sur la santé, dit Sylvie Joussaume, dans le cadre de ce tableau très complet et très général. Alors que vous, Jean-François Guégan, en juin 2015, avec un certain nombre de vos collègues, vous publiez dans la revue médicale bien connue The Lancet, une revue britannique, si je ne m'abuse, vous avez donc publié à plusieurs un article « La santé peut aider à sauver les négociations sur le changement climatique ». Pourquoi ?
Alors, je pense qu'il faut introduire quelques notions finalement très très simples quand on parle de santé. Alors santé, il peut y avoir ce qu'on appelle des maladies chroniques, hein, ce sont les effets dus à la pollution aérienne par exemple, mais aussi des maladies infectieuses. Donc aujourd'hui on parle énormément de l'arrivée de maladies infectieuses d'origine tropicale, notamment dans le sud de l'Europe, on y reviendra. Alors en matière de santé, on va distinguer entre ce qu'on appelle un danger. Alors, ce peut être justement un micro-organisme ou alors des particules aériennes polluantes que les gens vont respirer et qui pourra être responsable de certaines pathologies chroniques, difficultés respiratoires en particulier. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un danger de l'exposition. Une personne pourra être exposée ou pas. Si elle sort dans la rue, elle va être exposée à ces particules aériennes. Si elle rentre chez elle, elle ne le sera pas du tout, ou moins. Et puis, il va y avoir aussi ce que l'on appelle de la vulnérabilité. Alors, c'est de la vulnérabilité individuelle ou de la vulnérabilité des populations. Je vais juste prendre un exemple. On sait aujourd'hui très très bien qu'une amélioration des conditions nutritionnelles des personnes, donc bien nutries comme en Afrique, seront beaucoup moins sensibles à une infection par le vibrion causant le choléra, qu'une population, que des individus qui seront moins bien nutris. Et on va parler de doses. 10 puissance 6 bactéries seront nécessaires chez une population ou des individus mal nutris, alors que des individus bien nutris, il en faudra beaucoup plus. Et donc la nutrition est extrêmement importante pour comprendre aussi les maladies infectieuses.
Mais ce que vous voulez en fait suggérer ou nous dire, Jean-François Guégan, c'est qu'en fait, vous privilégiez, vous attirez notre attention sur l'importance d'une approche, je ne sais pas si on peut l'appeler systémique, mais en tout cas où tout est en interaction.
Absolument, absolument. Et des personnes en bonne santé seront des personnes aussi beaucoup plus aptes à s'adapter et à trouver des solutions, comme en Afrique par exemple, à s'adapter aux nouvelles circonstances, à une augmentation de température. Et de facto, c'est ce qu'elles font. En 3 ans ou en 4 ans, les populations de certaines ethnies du Burkina Faso sont capables de voir évoluer leur agriculture et leurs pratiques pour s'adapter à ces contextes.
Alors, je reviens à ma question initiale, si vous le permettez. Le titre de cet article scientifique publié dans la revue The Lancet, qui, si je ne m'abuse, hein, je parle sous votre contrôle, est vraiment considéré comme une des très grandes revues Absolument. Médicales du monde scientifique à l'échelle de la planète, donc avec un nombre important, hein, je crois que vous étiez une dizaine à peu près de co-auteurs, la santé peut aider à sauver les négociations sur le changement climatique, ce qui pouvait s'entendre il y a près d'un an maintenant, quand vous avez publié cet article, de deux manières. D'une part, les négociations sur le changement climatique étaient peut-être menacées d'un échec, mais on peut aussi comprendre, rétrospectivement, que si on ne met pas la santé que plutôt si on met la santé au cœur des négociations sur le changement climatique, à ce moment-là, on aura peut-être un levier pour remporter cette partie extrêmement difficile. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire ?
Voilà, c'est ça, c'est absolument. Dans la vision au préalable et la vision toujours très actuelle que l'on a des impacts du changement climatique, finalement, la santé, l'agriculture, elles arrivent en bout de course comme conséquence que vont appeler des impacts. Je n'aime d'ailleurs pas l'expression impact.
Pourquoi ?
Parce que justement, les populations sont capables de s'adapter, sont capables de réagir. Et donc, en plaçant au cœur du sujet de ces problématiques environnementales, la santé publique internationale, bien entendu, pensons aux citoyens des pays du Sud, et en leur donnant une meilleure santé, et on leur donne aussi, on leur procure les possibilités pour pouvoir agir, s'adapter et trouver de nouvelles solutions, telles que celles d'améliorer les conditions agronomiques et agricoles dans leur propre système.
Alors Cyril Caminade, donc je disais... Et je le rappelle, hein, vous êtes physicien, climatologue, et puis vous avez travaillé avec beaucoup, si je ne m'abuse, de mathématiciens. Enfin, hein, vous êtes issu d'un laboratoire qui est très connu en France, hein, encore une fois le CERFAX, pour ses travaux de modélisation. Hein. Et comment en êtes-vous venu à vous intéresser particulièrement à cette question de la santé au sein du changement climatique que vous étudiez au départ de façon plus générale ?
Ah, tout à fait. Tout d'abord, je faisais une thèse sur le réchauffement climatique en Afrique subsaharienne. Donc, j'avais déjà un intérêt sur les ressources en eau, en général, puisque tout découle des ressources en eau en Afrique de l'Ouest. Et plus récemment, donc, je suis allé à Liverpool et j'ai trouvé cette transition naturelle, puisque le réchauffement climatique, en finalité, va avoir des impacts sur la santé. Et donc, ayant travaillé en milieu tropical et sur la modélisation climatique en particulier, j'ai commencé à travailler avec des épidémiologistes, des statisticiens, des professionnels de la santé publique, des vétérinaires, pour essayer de regarder si on pouvait tous travailler ensemble pour avoir des scénarios pour le futur. Donc en essayant de coupler la science, la climatologie, avec l'épidémiologie, et essayer d'avoir une idée, un petit peu essayer d'anticiper les risques pour le futur. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait depuis les 8 dernières années, en travaillant sur des scénarios paludisme, sur la fièvre de la vallée du Rift, par exemple, ou des espèces de vecteurs invasifs, comme le moustique tigre, Aedes albopictus, qui commence à être un problème en France, et dans le sud de l'Europe en général.
Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être avant que vous nous expliquiez, si vous le voulez bien, même de manière très résumée, un peu vos différents scénarios, avez-vous le sentiment, Cyril Caminade, que ces travaux de modélisation, certes sur le climat, mais spécifiquement centrés sur la santé, sont suffisamment pris en compte dans les fameux rapports du GIEC, hein, qui, encore une fois, je le rappelle, sont des grandes agrégations et des grandes synthèses de tous les travaux de recherche réalisés sur le climat dans le monde. Le GIEC n'est pas un laboratoire de recherche. Hein. Le GIEC est un organisme qu'on peut qualifier de diplomatique, hein, et qui cherche à rendre la science accessible à partir de très très grandes synthèses. Donc avez-vous l'impression que la santé est suffisamment prise en compte dans ces travaux ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi, Cyril Caminade ?
Alors je dirais oui. Et en particulier depuis le dernier rapport. Donc il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur les impacts santé, les scénarios et les méthodes aussi pour essayer de regarder comment le risque pourrait changer dans le futur. C'était un peu moins vrai pour les versions précédentes des rapports où il y avait des études un peu préliminaires. Mais il y a de plus en plus de productions scientifiques qui commencent à inonder justement cette partie du GIEC en particulier. Donc il y a du progrès, il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de progrès aussi en France, comme vous avez mentionné le papier de Jean-François dans l'Lancet. Et il y a aussi beaucoup de progrès ici, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre.
Et pour vous, Jean-François Guégan, même question, avez-vous le sentiment que le GIEC se saisit suffisamment du sujet, puisque encore une fois, hein, votre point de vue de chercheur est de considérer que finalement, en rentrant par la santé pour aborder le changement climatique, on tient peut-être, d'une certaine manière, la clé centrale ou le moyeu qui permet de rayonner sur l'ensemble des facettes du sujet.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'exprimer Cyril Caminade. Il y a eu toute une phase d'hésitation sur ce sujet, qui est un sujet aussi très sensible, mais très complexe finalement, hein, parce que vous n'avez pas que le changement climatique à intervenir, vous avez d'autres paramètres, comme en général en santé, hein, vous n'avez pas un seul facteur responsable, et vous avez donc des multiples facteurs à intervenir, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement, aujourd'hui, que la santé est un élément extrêmement important à prendre en compte. On peut revenir sur la canicule en France, par exemple, et les constats qu'on a pu faire. Mais l'année dernière, nous avons eu aussi en France une canicule, peut-être de moindre ampleur que celle de 2003, mais on voit aussi comment le sujet a été bien mieux travaillé l'année dernière. En informant les populations, en informant les personnes sensibles à cette augmentation de température. Et donc, on n'a pas rencontré les mêmes problèmes l'année dernière, avec beaucoup moins de mortalité et de morbidité que l'on avait observé en 2003. Donc, les problèmes de communication, d'information sont aussi cruciaux. Avertir les populations face à un danger sont des problématiques extrêmement importantes.
Alors là, vous évoquez bien sûr des épisodes caniculaires que parfois on appelle des événements un peu extrêmes. On nous dit, en tous les cas, les rapports du GIEC nous expliquent que ces événements extrêmes risquent, d'avoir une fréquence de plus en plus importante, même si on ne peut pas encore exactement prédire, entre guillemets, quelle fréquence exactement ce sera. Quels sont les autres problèmes de santé ou les maladies, puisque Cyril Caminade, vous évoquiez le paludisme, pour que ça soit un peu concret pour nous tous, qui vous semblent être les premiers à être, disons, amplifiés ou modifiés par le changement climatique, Cyril Caminade?
Ah, bonne question. Bon, vous avez parlé des effets directs, donc les effets directs des vagues de chaleur ou des inondations sur notre santé. Donc ça devient de plus en plus omniprésent. Il y a toujours un débat dans la communauté scientifique, puisqu'il y a quand même une variabilité naturelle très forte. Il faut se rappeler de ça. Donc on va vers du plus chaud, si vous voulez. Mais par-dessus ça, on superpose une variabilité naturelle. Meilleur exemple cette année, par exemple, est El Niño. Donc El Niño qui a des conséquences globales.
Rappelez-nous, si vous le voulez bien, en quelques mots, le phénomène El Niño, ses caractéristiques.
Le phénomène El Niño, c'est caractérisé par des températures dans le Pacifique central plus chaudes que la moyenne. Donc c'est une énorme quantité d'énergie. Et cette énorme quantité d'énergie donc, est dissipée dans l'atmosphère et perturbe la circulation à l'échelle globale. Et ça a des impacts énormes, surtout dans la ceinture tropicale. Donc cette année, par exemple, vous avez pu voir que depuis juin l'année dernière jusqu'à maintenant, il y a eu des feux de forêt en Californie, il y a des problèmes de production agricole en Afrique du Sud, en Éthiopie. Il y a aussi des problèmes de feux de forêt qui sont ensuite reliés à des problèmes de qualité de l'air en Malaisie, en Indonésie. Donc ces phénomènes naturels qui superposent sur le réchauffement climatique ont un impact très fort aussi. Donc il faut pas oublier la variabilité naturelle qui va superposer sur cette tendance qui va vers du plus chaud, en effet. Ensuite, les choses qui font le plus peur, les maladies vectorielles sont des choses qui font plutôt peur. On a pu voir ce qui s'est passé avec le virus Zika en Amérique du Sud cette année.
Donc les maladies vectorielles, ce sont ces maladies qui sont transmises et portées par des moustiques, par exemple.
Un vecteur, oui. Donc ça peut être un arthropode. Donc vous pouvez avoir des moustiques, des moucherons, des tiques. Dans le cas, par exemple, de la peste, vous avez des puces, donc tout est possible. il y a aussi beaucoup de choses dont on ne pense pas forcément, puisqu'il y a une connexion, comme l'a dit Jean-François bien avant, c'est que la production agricole aussi souffre des maladies vectorielles, une maladie animale, et on voit aussi une recrudescence, une émergence de maladies en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde. Une maladie, par exemple, comme la TTC, la maladie du sommeil, c'est une maladie qui impacte sur l'économie, par exemple, d'un pays comme la DRC, dans le centre de l'Afrique. Ça a des impacts énormes.
La République démocratique du Congo. Hein.
Voilà. Donc ces aspects-là sont assez effrayants, tout à fait. Mais ensuite, vous avez d'autres phénomènes, comme Sylvia mentionné tout simplement au début. Si vous avez une montée des niveaux des océans en zone de basse altitude, et surtout pour les îles tropicales qui sont au niveau de la mer, ça veut dire que toutes les populations qui vivent là, que ce soit les humains ou les animaux, ont le risque, bien sûr, d'avoir les pieds dans l'eau. Et à partir de là, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de migration, etc. Mais je pense que la connexion vers la production agricole et les ressources en eau est critique. Ce sera plutôt d'ordre 1, et les maladies infectieuses sont peut-être d'ordre 2. Il faut se rappeler quand même que la peste en 1400 avait éliminé un tiers, je pense, de la population en Europe. Ou on peut se rappeler aussi de l'épidémie de grippe espagnole en Espagne au début du siècle, qui a aussi des impacts énormes. Donc il ne faut pas oublier ça.
Vous pensez, Jean-François Guégan, enfin vous êtes vous aussi assez pessimiste, hein, parce que j'interprète, disons, la conclusion du propos de Cyril Caminade comme un propos assez pessimiste. Est-ce que c'est votre cas aussi ?
Enfin, je ne suis pas justement connu pour être un pessimiste sur ces sujets-là, plutôt d'ailleurs un optimiste. Je vais juste prendre une illustration qui est de choisir une grenouille que vous mettriez dans un bocal, et ce bocal avec une eau à 100 degrés. La grenouille, si vous ne mettez pas un filet au-dessus du bocal, va tenter de s'extirper inévitablement. En revanche, si vous placez cette même grenouille ou une autre grenouille dans un bocal et vous progressivement augmentez la température, ça va être le piège ultime pour la grenouille, parce qu'elle ne va pas sentir l'augmentation de la température et elle va rester mourir dans son bocal. Donc la transposition aux populations humaines, excusez-moi, mais elle est parfaite, c'est-à-dire il va y avoir des événements extrêmes très très vite perceptibles par les populations humaines, et puis il va y avoir des événements graduels que les populations ne vont pas percevoir ou elles ne seront pas d'accord avec le discours des scientifiques, qui consistera à dire qu'il y a une augmentation progressive de la température, mais extrêmement lente. Et si on revient à l'histoire de ma grenouille, c'est le piège ultime. Alors c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec cette augmentation de température. Mais quant à avoir des maladies vectorielles ou des maladies dues à des réservoirs qui sont aujourd'hui d'origine tropicale et remontées vers le nord, pour l'hémisphère nord en Europe, je pense qu'on y revient.
Vous voulez dire finalement on est plus prudent?
On est beaucoup plus prudent, voilà. Justement parce que tout ce qui est fait actuellement, ce sont surtout de mesurer les dangers, ces fameux aléas que j'expliquais en introduction à cette émission, mais il faut aussi prendre en compte l'exposition, il faut prendre la vulnérabilité des populations. Donc Cyril Caminade prenait l'exemple de la peste qui a exterminé, c'est vrai, hein, un tiers de la population européenne à ces époques-là, au Moyen-Âge. Mais ces populations étaient extrêmement malnutries, il y en avait très très peu de compétences à pouvoir physiologiquement et immunologiquement résister aussi à ce type d'infection. Aujourd'hui, dans nos sociétés, les gens sont en moyenne et en général bien nourris et beaucoup plus armés à résister à des infections. On sait aujourd'hui aussi que la transmission des virus type Zika ou de la dengue en particulier dans le sud de l'Europe, c'est très travaillé d'ailleurs à Montpellier, c'est très travaillé en particulier dans notre équipe à Montpellier.
Montpellier où se trouve le siège de l'IRD. Hein.
Exactement. Le siège administratif est à Marseille. Mais l'un des plus gros centres de recherche est effectivement à Montpellier.
Historiquement, ouais. Montpellier, voilà. c'est le...
Puis il y a une tradition tropicale aussi, un tropicaliste à Montpellier. Et donc on sait aujourd'hui que les vecteurs, en fait, sont très très peu compétents, alors c'est-à-dire à la fois à recevoir ces virus et puis ensuite à les retransmettre. Ils sont très très peu compétents à transmettre et à faire circuler ce type de virus. Donc on n'est plus avec ces cartes comme on pouvait le voir il y a 15 ou 20 ans, c'est-à-dire du rouge surtout de l'Europe, et parce que c'est beaucoup plus compliqué et que ces espèces de vecteurs en particulier, hein, je pense aux moustiques tigres, en dehors des gènes qu'il peut occasionner à cause des piqûres, bien entendu, c'est extrêmement important, à transmettre ce type de virus, on commence à avoir une vision très différente de ce que l'on avait au préalable. C'est-à-dire, le risque, je parle bien de risque là, de risque infectieux, il est bien moindre et certainement bien plus compliqué.
Alors, ceci étant, l'insistance avec laquelle vous nous rappelez combien l'état de vulnérabilité d'une population est variable et peut expliquer les conséquences du changement climatique sur la santé, me fait demander à vous deux, qui êtes plutôt des tropicalistes, l'un et l'autre, vous avez plutôt travaillé sur des terrains qui sont en Afrique subsaharienne, si je ne m'abuse, est-ce que ça n'est pas en train, ou est-ce que ça ne va pas, est-ce que ça n'est pas d'ores et déjà en train de créer, de creuser les inégalités nord-sud, ce changement climatique, du point de vue de la santé en particulier ? Jean-François Guégan ?
Alors, bien évidemment, la notion de vulnérabilité est essentielle. Donc, elle est très, très bien travaillée dans de nombreux établissements et instituts de recherche de par le monde, et en particulier, pour le mien, l'Institut de recherche pour le développement. C'est un paramètre essentiel à prendre en compte. La vulnérabilité des populations s'accroît aujourd'hui, bien entendu. Et donc, dans mon institution, on milite pour une santé globale, on milite à ce que les populations les plus démunies aujourd'hui du monde puissent avoir accès à une santé à laquelle ils ont bien entendu le droit. Et donc, se développe aussi la notion de ce qu'on en appelle la résilience des sociétés, c'est-à-dire leur capacité. C'est vient du monde de la physique, vous savez, ces formes que l'on transforme et qui reviennent à la forme initiale. Donc on adapte ce concept aujourd'hui aux sociétés, c'est-à-dire face à un danger, face à une catastrophe, comment les sociétés peuvent récupérer. Donc c'est une mesure extrêmement importante à prendre en compte. Il y a énormément de recherches sur ce sujet et c'est un paramètre qui pourra nous servir de rechercher quelles sont les sociétés les plus résilientes face à un problème de celles qui sont extrêmement vulnérables et qu'il faudrait absolument aider. Donc là on est en plein sur les problèmes de développement des populations et des pays les plus démunis de la planète.
Parce que l'OCDE, par exemple, dans une étude récente, allait jusqu'à écrire, Cyril Caminade, que les effets du changement climatique sur la santé publique allaient peut-être compromettre le développement d'un certain nombre de pays en voie de développement. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans les scénarios issus de vos modèles, Cyril Caminade ?
Je me suis juste centralisé en fait sur les impacts directs du réchauffement climatique, donc purement la température, par exemple, au changement de précipitation. Mais il y a aussi des gens, comme à la Banque mondiale, par exemple, qui regardent aussi ces espèces d'interactions entre développement économique et impact du réchauffement climatique. Donc il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps par la Banque mondiale, qui a été lidé par Stéphane Allegatte. Oui, justement, ils reprennent ces arguments avec les problèmes d'inégalité qui se creusent et des effets asymétriques qui pourraient se produire. Vous avez par exemple en Afrique des pays comme le Nigeria qui se développent très rapidement et des pays plus à la traîne. Je vais éviter de donner des noms. Mais forcément, même dans les pays du Sud, il va y avoir des effets asymétriques au niveau de la réponse des systèmes au stress lié au réchauffement climatique. Donc ça dépend bien sûr de la vulnérabilité, comme l'a dit Jean-François. Quand vous avez un système de français avec la sécurité sociale, comme en France par exemple, ou la NHS en Angleterre, il n'y a rien de comparable avec le système de santé qu'il y a en Tanzanie par exemple, ou au Mali. Donc forcément, il va y avoir des creux, ça peut se creuser. Mais le développement économique derrière est clé, bien sûr, pour essayer d'avoir une santé globale, mais aussi une santé locale, une fois que le gouvernement peut s'occuper de la santé de ses habitants. Mais c'est loin d'être le cas pour beaucoup de pays sur la planète. C'est des choses dont les gens ont peut-être oublié.
Quels peuvent être, selon vous, sinon les principaux effets, en tous les cas, quelques cas, quelques illustrations, pour qu'on ait une idée un peu concrète de ce qui pourrait se passer, justement, en matière de santé dans les années qui viennent, dans tel ou tel pays ou telle région du monde tropical. Cyril Camille ou Jean-François Guégan.
Oui, alors les maladies sur lesquelles je travaille ou nous travaillons finalement à Liardé, quand une personne est infectée et qu'elle se trouve dans un village pour lequel le premier centre de soins sera à 40 ou 50 kilomètres, imaginez-vous être au nord de Yaoundé ou au Mali ou en Côte d'Ivoire. Dans un village très reculé, les parents de l'enfant infecté hein, par l'udisme, la dengue, quelles que soient d'ailleurs les raisons, est-ce dû au changement climatique ou à autre chose pour lesquelles il a été infecté, auront à payer le chauffeur d'une mobylette pour accéder au centre de soins pour finalement soigner leur enfant et donc devoir payer 400 ou 600 francs CFA. C'est absolument rien du tout. Mais c'est beaucoup pour eux, pour ces individus qui gagnent moins de 2 dollars par jour. Et miser sur 600 francs CFA pour payer le chauffeur de mobylette pour aller jusqu'au centre de soins, pour trouver là le médicament pour sauver l'enfant, et finalement avoir à payer du riz ou d'autres nourritures le lendemain, eh bien, ces familles ont un choix à faire. Et c'est ce qui est dramatique, en fait. Donc finalement, d'une couverture sociale et de santé pour ces gens et le développement de cela pour ce type de pays, finalement, c'est quelque chose aussi d'essentiel et sur lequel il faut unanimement travailler.
Mais ça, j'ai envie de dire, changement climatique ou pas ?
Absolument, absolument.
Mais alors, est-ce qu'il faut comprendre que au-delà... des effets généraux que peut avoir le changement climatique sur la santé ou sur les maladies que vous avez évoquées au début de l'émission, on ne peut pas, à ce stade, dans les études scientifiques, anticiper, on va dire, des problèmes particuliers ou régionalisés.
D'accord. Les populations vont pouvoir migrer pour différentes raisons, hein. Changement climatique ou autre chose, pour la recherche finalement d'emploi. Donc ça, c'est un deuxième phénomène qui doit être pris bien entendu en compte. Donc vous avez de multiples facteurs et paramètres à intervenir. Hein.
Est-ce qu'il y a des régions qui vont être dont l'écologie de la santé va être plus modifié, plus affecté par le changement climatique, ou bien est-ce qu'il faut finalement s'attendre à ce que ça soit relativement uniforme sur toute la planète ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse voir quelque chose d'uniforme. Hein. Ça va être très, très différent, très hétérogène d'une région, voire d'une sous-région à l'autre. Et d'ailleurs... Souvent, on a vu le changement climatique comme avoir des conséquences négatives, mais on pourrait tout aussi bien voir des conséquences positives. Vous voyez des températures à 40 degrés, comme on observe aujourd'hui en continu à Bamako, qui est la capitale du Mali, avec très très peu de pluie ou beaucoup moins qu'auparavant. Ces conditions sont absolument pas propices pour la transmission du cycle parasitaire du paludisme. Donc, dans certaines régions d'Afrique, et en particulier celle-là, et je ne dis pas sur l'ensemble du territoire, je dis pour quelques localités et quelques sous-régions, vous devriez voir la disparition d'un certain nombre aussi de maladies, parce que les contextes ne seront plus favorables à la transmission des parasites, des virus ou des bactéries, où verront les vecteurs mourir.
Vous évoquez Bamako, capitale du Mali, et je voudrais, en écho, vous faire entendre un extrait de l'entretien que François Bricaire, professeur de maladies infectieuses à l'université Pierre et Marie Curie, et qui était à l'époque également chef de service à l'hôpital de la Salpêtrière, donc extrait d'un entretien qu'il avait accordé à France Culture dans l'émission Avec ou sans rendez-vous, le 26 octobre 2010, parce que il donnait, lui, pour exemple de ce genre de modification que vous venez d'évoquer, les Ardennes.
Nos climats sont susceptibles de faire varier des pathologies infectieuses. Il y a une dizaine d'années déjà, dans le nord-est de la France, plus particulièrement dans les Ardennes et plus spécifiquement encore dans la vallée de la Meuse, on assiste à quelques cas de sujets qui souffrent de lombalgie, des douleurs du dos, avec de la fièvre. On s'aperçoit que leur fonction rénale, quand on les hospitalise, n'est pas très bonne. Et en fait, tout ceci est très vite rapporté à un agent infectieux qui est un virus qui a un nom un peu barbare, le virus de Hantaan, mais qu'on n'avait pas vu en France jusqu'à présent. Il est transmis par les rats, des petits campagnols, on va dire plus exactement. Et ces petits animaux vivent dans les forêts et sont sensibles dans leur pullulation, dans leur prolifération, à l'hygrométrie. Et les sujets qui allaient dans les forêts ardennaises pour couper du bois, parce qu'on a le droit de couper du bois, c'est ce qu'on appelle l'affouage, eh bien, se sont contaminés avec les urines de ces rats en ramassant le bois et ont fait une maladie infectieuse qui s'appelle cette fièvre de Hantaan. Et il y a eu beaucoup de cas. Et tout ceci a été sans doute favorisé très clairement par la pluviométrie qui avait augmenté.
France Culture, Planète Terre. Sylvain Kahn.
Jean-François Guégan, une réaction ou un commentaire à ces propos?
Oui, alors je vous laisse commenter sur ce propos de François Bricaire. Donc c'est bien entendu vrai, mais c'est ces maladies qui sont à transmission, on va dire dans notre jargon zoonotique, transmises par un animal, par des campagnols, etc. On sait que ces animaux, hein, ces rongeurs en particulier, ont des cycles un peu complexes, c'est-à-dire que tous les 7 ans, ils vont pulluler. Et donc, dans l'est de la France, les gens ont une très très bonne compréhension de ces phénomènes et en particulier savent que tous les 7 ans, vous allez avoir des pullulations mais monstrueuses de ce genre de petites bestioles, à tel point que dans les champs, il y a encore pas très longtemps, dans les années 50, dans les années 60, les gens quasiment marchaient dessus. Et donc avec l'augmentation de ces petits rongeurs, il y a aussi une augmentation finalement des agents infectieux dont ils peuvent être les hôtes naturels. Hein. Je pense en particulier les hantavirus qui sont présents dans le nord-est de la France. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a oublié? Et on a oublié de faire et d'engranger des données sur finalement ces petits rongeurs, c'est-à-dire de mesurer leurs effectifs pour essayer de comprendre ces dynamiques qui sont des dynamiques absolument naturelles. Ça se passe depuis des dizaines de milliers, des millions d'années, avoir ces fluctuations soudaines ou alors avec des régularités tous les 7 ans dans les populations et en particulier des campagnols, qu'on observe beaucoup moins aujourd'hui et à cause des pesticides, insecticides qui ont tendance à détruire ces populations.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que là aussi, il faut pas forcément tout interpréter à l'aune du changement climatique. Mais précisément, j'ai cru comprendre en préparant cette émission que l'un et l'autre, vous attiriez l'attention de vos lecteurs et de vos interlocuteurs au sein de la communauté scientifique ou peut-être administrative, des gens qui s'occupent des politiques publiques, sur la difficulté de traiter ce sujet, santé et changement climatique, en raison de l'indigence de données. Est-ce que j'ai bien compris? Et si oui, comment ça s'explique? Et est-ce que ça s'aggrave ou est-ce que ça s'améliore? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la recherche, les chercheurs que vous êtes, puissent bénéficier ou fabriquer les données dont vous avez besoin pour éclairer à la fois les citoyens et la décision publique, Cyril Caminade?
Alors, il y a beaucoup de progrès là-dessus. Il y a beaucoup de progrès en termes de surveillance, mais ça va dépendre, bien sûr, d'où vous vivez sur la planète. Donc on a toujours besoin d'avoir des longues séries de références, que ce soit au niveau climat, mais aussi au niveau santé. Et avoir des séries longues, ça peut être un peu la recherche du Graal pour certains pays. Il y a quand même, il faut le dire, beaucoup de progrès là-dessus, particulièrement en Europe par exemple. On peut citer un réseau d'entomologistes à l'échelle européenne, qui va rapporter à l'ECDC en Suède, de manière régulière, la présence, par exemple, du moustique tigre sur le terrain. Et les gens, donc tout le monde peut s'informer, le site est public, et on peut suivre en temps réel la progression du moustique lié à ce réseau. Il y a aussi du progrès qui est lié au niveau public. On essaye d'avoir plus de gens, plus de volontaires qui aident. Alors, je peux citer par exemple un exemple ici, avec Public Health England, où il y a un projet, une thésarde, qui est en train de faire des quantifications de tiques, tiques qui sont des vecteurs de maladies, comme la maladie de Lyme chez les hommes, ou la babésiose pour les animaux. Et elle a une armée de volontaires en fait, qui vont se promener tout autour de l'Angleterre, qui ont tous la même méthode d'observation pour quantifier, mesurer et essayer de regarder ces tiques à l'échelle saisonnière sur plusieurs années. Donc il y a quand même un gros effort derrière de recherche scientifique, il y a quand même des financements. Il y a aussi de plus en plus de gens dans le domaine public qui sont impliqués. Donc il y a quand même beaucoup de progrès. Faut pas voir les choses de manière négative. Mais on est bien sûr limité par le manque de données. On peut pas tirer des conclusions scientifiques si on a juste quelques événements ou quelques cas au niveau spatial, par exemple. Il est difficile de dire quelque chose.
Est-ce que, par exemple, sur le paludisme, puisque vous avez particulièrement travaillé dessus, Cyril Caminade, vous pouvez dire des choses qui éclaireraient justement les auditeurs, à la fois en termes d'état des lieux, le paludisme et le changement climatique, est-ce qu'il y a des interactions et des effets, et puis en termes de prospective. Enfin, je sais bien que en climatologie, on ne parle pas de prospective, on parle de scénario.
Tout à fait. Au niveau du paludisme, donc c'est un peu l'exemple brûlant, puisqu'il y a eu des débats très agités au niveau de la communauté scientifique. Comme Jean-François l'a dit avant, le climat va jouer un rôle, mais bien sûr le mouvement des personnes et des biens est un facteur très important. C'est comme ça qu'on arrive à bouger des vecteurs et des pathogènes sur la planète, ce qui est un facteur de risque numéro un. Et il y a eu un débat très fort donc par rapport à l'influence relative du climat, par rapport à des facteurs de vulnérabilité liés aux services de santé, ou aussi à la manipulation des types de sols, puisque l'agriculture change, et en transformant par exemple un champ en champ de riz, vous augmentez le risque de transmission du paludisme, si le vecteur est présent. Donc c'est très compliqué, mais pour le moment, on a une espèce de consensus qui est que le risque dans le futur a l'air d'augmenter purement climatiquement dans les zones d'altitude, donc en Afrique de l'Est par exemple, mais qui par contre a l'air de descendre, ce qui est assez intéressant puisque ça a l'air de corroborer la situation à Bamako, dans l'Afrique de l'Ouest, puisque là on se retrouve avec des températures qui sont poussées vraiment dans la bordure, on va dire, de viabilité des vecteurs, donc vous avez moins de vecteurs. Et vous avez moins de paludisme. Ça a déjà été vu dans le passé. Post-sécheresse sahélienne, il y avait une déparition de vecteurs du paludisme dans le nord du Niger, nord du Mali. Ça a été observé. Donc c'est des choses qui sont importantes, mais ça reste juste une tendance. À la fin, la finalité, bien sûr, tout dépend des méthodes de contrôle et des méthodes de santé publique. Si vous regardez l'Afrique, qui est le point numéro un pour le palu à l'échelle globale,
quelle est la mortalité,
Il y a une amélioration énorme qui est liée à l'investissement de bailleurs de fonds, de l'OMS, etc., etc., etc. Il y a quand même beaucoup de progrès. Le paludisme est descendu en Afrique, en grande partie lié à des méthodes de contrôle, distribution de moustiquaires imprégnés, méthodes de vecteurs de contrôle avec des moustiques OGM. Il y a beaucoup de techniques. Et aussi tests de diagnostic précoce. Donc toute cette batterie, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent pour améliorer les choses, et ça commence à payer. Donc il faut quand même faire attention au niveau du discours, puisque en finalité, c'est vraiment l'état des services de santé, on va dire, et la façon dont ça va évoluer dans le futur qui va être critique. Le climat joue toujours un rôle dans le tâche de fond, et on l'a observé dans le passé, et on l'observera aussi dans le futur. Au niveau du paludisme. Donc pour le moment, pour le paludisme, comme je répète encore, donc il y a un risque en augmentation dans les zones, on va dire, qui sont historiquement free ou libres du paludisme, donc des régions des hautes terres en Afrique de l'Est. Mais par contre, un risque qui pourrait diminuer dans les zones de plaine liées à des températures trop chaudes. Je trouve ça évident. Pousser les
oui, deux remarques suite au propos de Cyril Caminade. Peut-être que les auditeurs ne sont pas conscients, mais le paludisme, alors c'est une autre forme du paludisme. Hein. Le paludisme dont parle Cyril Caminade, c'est le paludisme qui est le plus sévère d'ailleurs à Plasmodium falciparum, mais dans partout en Europe. Jusque dans les années 1957-1958, nous avions une autre forme qui était due au Plasmodium vivax. En 1832, 1833 et 34, lors de la percée du canal de Nantes à Brest, dans l'ouest français, on va utiliser les bagnards et donc pour creuser le canal. Et donc, bien entendu, on va traverser des zones de bas-fond, donc des zones marécageuses. Et bien entendu, les bagnards, en creusant, vont être aussi... et vont avoir des gardes-chourmes à les contrôler. Et donc, on va assister à des mortalités chez les individus, mais essentiellement chez les bagnards. Je crois me rappeler qu'il va y avoir qu'un garde à mourir. Et vous savez pourquoi ? C'est tout simplement parce que les bagnards étaient beaucoup plus exposés et beaucoup moins bien nourris que les gendarmes à les surveiller. Donc, paludisme, nous en avions... en dehors de tout contexte de changement climatique, à Londres à l'époque, hein, à la période du 19e siècle, Londres était atteint et affecté par le paludisme, ainsi que d'autres villes d'Europe de l'Ouest.
La mortalité du paludisme aujourd'hui
On compte entre 1,5 et 2 millions de personnes à en mourir par an dans le monde, et essentiellement pour beaucoup en Afrique. Cyril Caminade rebondira et pour apporter des précisions.
Ça reste une cause de mortalité très
importante.
Ça reste
une cause, mais c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est environ entre 4 et 6 millions de personnes à mourir. Et ça, on ne le dit jamais, ce sont des maladies diraïques. Donc, il peut y avoir de multiples facteurs, mais on meurt dans le monde aujourd'hui beaucoup plus de diarrhées, de maladies diarrhéiques, en particulier chez l'enfant et en particulier en Afrique. Le deuxième constat que je voulais faire, c'est à propos, vous savez, du moustique-tigre qui est apparu dans le sud de la France. Alors, est-ce dû au changement climatique ou pas ? Le changement climatique, comme l'a dit Cyril Caminade, ou la composante climatique en particulier, elle est importante à prendre en compte. Hein, c'est le fond sur lequel va se développer ou pas un insecte. Ou d'autres organismes d'ailleurs, mais le trafic routier est extrêmement aussi important, bien entendu. Et puis, ce sont des espèces qui vont avoir des capacités invasives exceptionnelles. Donc, il y a au moins trois facteurs importants, le changement climatique, des composantes principales qui vont faire que ces espèces ont des capacités d'invasion exceptionnelles. Donc, ça, ce sont des sujets d'ailleurs formidables. Et puis, il n'y a rien de mieux que votre coffre de voiture ou les containers sur les rails à circuler et à transporter ces insectes. Et finalement, c'est ce que l'on remarque actuellement dans les études les plus récentes.
Cyril Caminade, vous évoquiez les financements en disant que finalement, vous estimiez que les choses étaient plutôt en progrès, en tous les cas au Royaume-Uni. Question peut-être naïve, ou béotienne en tout cas, quid des laboratoires pharmaceutiques, quid des grandes firmes, parce que on pourrait imaginer que pour celles-ci, laboratoires pharmaceutiques et grandes firmes du médicament, y a, on pourrait dire, un marché à venir, hein, et que donc financer la recherche sur les liens entre santé et changement climatique devrait leur permettre de se préparer ou d'anticiper de futurs besoins auxquels ils pourraient répondre. Est-ce que c'est une vision irénique des choses ?
Pas vraiment, puisqu'il y a déjà quand même des financements, il y a quand même des possibilités de travailler avec des boîtes pharmaceutiques ou d'avoir des financements pour le développement de vaccins, par exemple. Donc il y a des grosses boîtes en France, hein, Pasteur, Sanofi, GSK en Angleterre. Donc il y a des gens qui travaillent derrière, dur, pour développer des vaccins. Bon, des virus, par exemple.
Et qui sont ensuite, diffusés ou mis sur le marché à des prix, abordables selon le niveau de développement et de pouvoir d'achat des sociétés.
Ça dépend. Donc bien sûr, ils essayent de faire le mieux possible. Mais il y a aussi, c'est aussi une machine pour faire de l'argent. Il y a par exemple des Indiens, Hyderabad, qui développent des vaccins, et le but numéro un, c'est de développer un traitement ou un vaccin qui va pouvoir être acheté par tout le monde. Donc il y a cet aspect aussi de coût qui est très important. On peut développer un traitement pour le sida, par exemple, ou d'autres choses, mais si personne ne peut se permettre d'acheter le traitement, forcément ça sert pas grand-chose.
Jean-François Guégan, sur ce point.
Oui, je voulais réagir sur ce sujet. On va se situer d'ailleurs dans un pays très très proche qui est le Bangladesh.
Proche de l'Inde, hein, vous voulez dire.
Oui, c'est ça. Et donc, sa capitale, donc Dhaka, vous avez un laboratoire en particulier à Dhaka, en collaboration avec des laboratoires américains qui développent des choses extraordinaires, assez intéressantes, et qui vont ensemencer le milieu côtier maritime qui, à un moment donné, va avoir une explosion d'un certain nombre de bactéries marines côtières et dont celles responsables pour causer le choléra dans les populations. Ils vont ensemencer avec des virus, mais ce sont des virus qu'on va appeler des bactériophages. C'est-à-dire, c'est des virus qui vont attaquer, finalement, ces bactéries. Vous savez, chacun a ses proies et prédateurs. On est dans un système pro-prédateur. Donc, vous avez des bactéries qui vont avoir des bactériophages. On appelle ça la bactériophagie, en fait. On l'utilise actuellement en médecine, mais là, on va l'utiliser de manière environnementale. Ça va être la bactériophagie environnementaliste, je dirais. On va ensemencer le milieu quand on sait qu'à un moment, il va y avoir une explosion des bactéries. Et donc, ces bactériophages vont venir tuer ces bactéries qui commencent à proliférer dans l'environnement. Et donc, du coup, on va diminuer le risque de transmission aux populations humaines riveraines.
Il n'y a pas de risque que ça échappe aux concepteurs.
Pour l'instant, c'est en phase d'étude, c'est en phase d'exploitation, mais ce sont souvent des virus de bactéries qu'on appelle des bactériophages qui vont être spécifiques, qui vont attaquer uniquement tel type de bactéries, mais pas tel autre.
Et j'avais aussi une question, Cyril Kemetet et Jean-François Guégan, sur la question du lien, puisque vous nous avez expliqué au début qu'il y avait beaucoup d'interactions entre les différents facteurs, du lien entre, disons, le changement climatique et la santé, du point de vue de l'érosion de la biodiversité. Est-ce que, j'ai eu l'occasion ici de faire sur France Culture dans une émission de Planète Terre où on a évoquer, disons, cette question. Il y avait un débat, certains disant que la question de la biodiversité n'avait pas été suffisamment mise à l'agenda de la COP21 et donc de l'accord qui a été signé par 175 pays le 22 avril dernier. J'ai quand même l'impression qu'en tout cas, vous, s'agissant de la santé, vous avez quand même le sentiment que maintenant c'est dans l'agenda. Mais du coup, si la biodiversité n'a pas été mise suffisamment au centre des conclusions de la COP21, ça veut dire que les conséquences de l'érosion de la biodiversité sur la santé non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Guégan ?
Voilà. Donc là, on se situe beaucoup plus proche du sujet sur lequel je travaille actuellement et qui est une des priorités de mon institution. Prenons l'exemple.
L'IRD à Montpellier.
Voilà. Vous allez avoir de la biodiversité sauvage dans les écosystèmes d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Et puis aussi, il faut considérer la biodiversité, celle que l'on va exploiter en termes agricoles, agronomiques. Donc on va parler de variétés. On va parler de variétés de riz. Vous prenez un pays comme le Sénégal, il y a encore 30, 40 ou 50 ans en arrière, il disposait de 140, 150 variétés de riz différentes, chacune des variétés complètement adaptées. On est presque dans des histoires de coévolution, vous voyez, entre ces variétés de riz et des populations qui, de manière séculaire, ont adapté leurs pratiques à ces variétés de riz complètement adaptées à un contexte de sécheresse, de sursalure des sols. Et aujourd'hui, vous trouvez combien de variétés sur le terrain sénégalais ? Actuellement, vous n'en trouvez qu'une. Donc là, vous avez bien une érosion, finalement, de la diversité, donc de la diversité agricole en riz. Alors que chacune de ces diversités, dont les graines sont conservées, c'est un sujet essentiel et majeur pour les institutions et pour le futur, dans le cadre d'un développement durable, chacune de ces variétés était complètement adaptée à des contextes et c'est vers là qu'il faut s'orienter, c'est-à-dire exploiter les ressources génétiques du vivant pour adapter ces ressources aux futurs contextes que nos populations connaîtront dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 200 ans.
Votre point de vue là-dessus, Cyril Caminade ?
C'est assez compliqué, hein, les problèmes de biodiversité. Il y a un truc assez contre-intuitif, par exemple, puisque plus vous avez de biodiversité, plus vous avez d'animaux, plus vous avez de chances d'avoir de nouveaux pathogènes. Donc en général, si vous regardez la richesse en termes de biodiversité, c'est beaucoup plus fort dans les tropiques, les régions plus chaudes, plus humides, plus d'espèces. Mais ça crée aussi plus de pathogènes, d'un certain côté. Donc plus de biodiversité peut aussi amener plus de maladies infectieuses. C'est une chose. Mais parler du réchauffement climatique, des impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité, il y a quand même un impact plus fort, je pense, de l'homme directement sur la biodiversité. On s'est débarrassé de l'ours dans les Pyrénées, des loups, ça va très vite. tandis que les impacts liés au réchauffement climatique vont prendre beaucoup plus de temps. Bon, il y a des exemples emblématiques, comme l'ours polaire. Bien sûr, si vous avez une fonte des glaces, l'ours ne va pas survivre dans son milieu naturel. Donc il y a ces aspects-là, mais je pense que souvent on a tendance à relier réchauffement climatique, biodiversité, sans dire tout simplement qu'on a un impact beaucoup plus grand sur la biodiversité, via l'agriculture, comme l'a dit Jean-François, ou via directement élimination des nuisibles par nous. Donc il y a ce côté-là. Mais après, on peut aussi se tirer une balle dans les pieds, comme l'a dit Jean-François, pour les variétés de riz. C'est aussi vrai, par exemple, pour les plantes médicales et le développement de nouvelles molécules. Par exemple, le dernier prix Nobel de médecine, c'est une Chinoise qui s'est servi d'une plante pour avoir un principe actif qui s'appelle l'artéminisime, qui est le traitement numéro 1 pour le palud tropical, en zone Afrique, par exemple, en zone tropicale, si vous pouvez vous le permettre. Donc, si on se débarrasse de ces plantes, si on se débarrasse de cette diversité, on peut aussi manquer des solutions.
Oui, on peut passer à côté.
On peut passer à côté de solutions, voilà, tout à fait.
Jean-François Guégan, je crois que vous vouliez...
Oui, à propos du paradoxe, qui est d'ailleurs très intéressant, mais qu'on vient finalement de résoudre, il n'y a finalement pas très longtemps, en disant une forte diversité en espèces, finalement, c'est garante aussi d'une meilleure protection contre des invasions par des maladies infectieuses. Et puis, dans le même temps, de dire que les forêts tropicales et intertropicales sont le berceau et finalement des muséums, si vous voulez, d'agents pathogènes. C'est tout simplement parce qu'il y a une confusion entre parler d'un micro-organisme. Notre intestin, il est plein, il est riche en micro-organismes dont la plupart sont des organismes sympathiques et d'ailleurs nécessaires pour notre propre physiologie. Et donc un micro-organisme et l'ensemble des micro-organismes sur Terre sont des agents plutôt bénéfiques. Et certains, malencontreusement, peuvent devenir des agents pathogènes. Donc les forêts intertropicales sont riches en micro-organismes. Et certains, par voie d'exposition et de contact avec des populations humaines, peuvent devenir des agents infectieux. Et ça, on comprend actuellement pas très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vie sur Terre, elle est organisée non pas parce que vous voyez, mais parce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les micro-organismes. Un homme existe en tant qu'homme essentiellement par les micro-organismes qu'il héberge.
J'ai une toute dernière question, mais à laquelle je vous demanderai de bien vouloir répondre très rapidement, puis c'est un peu une question de science-fiction. Est-ce que le changement climatique va amener des nouvelles maladies? En un mot, Jean-François Guégan.
Alors,
c'est plutôt oui ou non, parce on arrive au terme de l'émission.
Sur ce sujet, on voit bien qu'il y a eu une inflexion, notamment dans le sud européen. La tendance est plutôt à dire il y aura des foyers, il y aura quelques cas qui seront très très vite maîtrisés. Et s'il y a apparition de cas, c'est essentiellement par les transports organisés par l'homme.
Merci beaucoup, car Planète Terre, c'est fini pour aujourd'hui. C'était donc « Quel est l'impact du changement climatique sur la santé mondiale ?» Jean-François Guégan et Cyril Caminade, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. On a bien compris qu'il n'y avait pas de réponse simple par oui ou par non à cette question de l'impact du changement climatique sur la santé mondiale, tant les facteurs d'évolution de la santé étaient importants. En tous les cas, Jean-François Guégan et Cyril Caminade, les liens vers vos publications sont sur la page internet de Planète Terre qui est sur le site de France Culture. Je rappelle, Jean-François Guégan, que vous avez participé avec tout un collectif à ce très beau livre qui s'appelle Changement climatique, quel défi pour le Sud. Luc-Jean Reynaud, Thibault Germèze, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de cette émission. Cette émission, comme les précédentes, vous pouvez l'écouter à nouveau en ligne pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Vous pouvez également la partager sur mes comptes Facebook et Twitter. Et je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Demain jeudi à 16h, Culture Science suite. Ne manquez pas La Marche des Sciences d'Aurélie Luneau.